C'est avec joie que je vous retrouve ce matin après quelques semaines d'absence. Je profite de l'occasion pour vous remercier de vive voix pour vos prières que Dieu a entendues. Mon voyage aux États-Unis s'est très bien déroulé et le retour, malgré un retard initial, a été sans encombre. Et si je devais le résumer, eh bien, mon expérience de Dieu durant ce voyage a été celle d'un Dieu rempli de grâce. Bon. Fort généreux et protecteur. La manière dont nous avons été accueillis et le bon déroulement de chaque journée sont des éléments qui me font dire cela. Mais l'expérience la plus forte que j'ai vécue durant ce voyage est lorsque j'ai entendu dans sa parole l'appel du Seigneur à demeurer en lui. Et vous, si je devais vous demander de me décrire l'expérience la plus forte que vous ayez faite de Dieu dans votre vie, que diriez-vous? Quelle a été la plus forte impression que Dieu vous a laissée? Le texte de ce matin va peut-être compléter, ajuster notre perception actuelle de Dieu. Et en réalité, pour vraiment connaître Dieu, le texte de ce matin en Exode chapitre 19 nous est indispensable. Pour véritablement connaître Dieu, il nous faut plonger nos regards dans l'Écriture. C'est là que Dieu se révèle tel qu'il est. Et notre expérience personnelle est toujours et avant tout soumise à ce que Dieu dit de lui-même dans sa parole. Notre expérience est toujours secondaire par rapport à ce que Dieu dit dans sa parole. Pour connaître Dieu, la parole de Dieu est première. Et alors que le peuple d'Israël séjourne dans le désert depuis 3 mois, il arrive enfin à destination. Alors non pas dans la terre promise, mais au lieu où Dieu s'est révélé à Moïse, le mont Sinaï. Nous y voilà. Et nous allons lire ce texte ensemble dans Exode, chapitre 19, et je vous invite à pouvoir suivre la lecture avec moi. Nous lisons donc dans la parole de Dieu. Le jour même du 3e mois, après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en annonçant « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit : « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse : « Voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse : « Va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'il soit prêt pour le 3e jour, car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne, et tu diras : « Gardez-vous bien de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le transpercera de flèches. Qu'il s'agisse d'un animal ou d'un homme, il ne vivra pas. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront vers la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il consacra le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. » Le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder, car un grand nombre parmi eux mourrait. » Que les prêtres qui s'approchent de l'Éternel se consacrent aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, puisque tu nous as toi-même donné cet avertissement. Fixe des limites autour de la montagne et déclare-la sacrée. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, descends. Tu monteras ensuite en compagnie d'Aaron. Quant aux prêtres et au peuple, qu'ils ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. » Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Pour ce matin, je m'arrêterai sur 3 aspects qui ressortent du texte et qui mettent en évidence que l'Éternel, notre Dieu, veut être en relation avec son peuple et qu'en même temps, eh bien, nul ne peut s'approcher de lui si ce n'est à ces conditions. Dieu veut être en relation avec son peuple, être proche de son peuple, mais en même temps, nul ne peut s'approcher de lui si ce n'est à ces conditions. Et d'abord, je voudrais évoquer l'intention de Dieu. Cela fait quelques semaines que nous avons repris cette série sur l'Exode et nous sommes maintenant habitués à voir ce peuple libéré des Égyptiens aller d'étape en étape dans le désert. Précédemment, nous nous étions arrêtés à Réphidim, dont il est fait mention dans notre texte. Réphidim, vous savez, c'est là où, malgré les plaintes du peuple, Dieu leur a donné quand même de l'eau à boire. Réphidim, c'est aussi le lieu où les Israélites ont dû se battre contre les Amalécites qui étaient venus les combattre. Et vous vous souvenez peut-être de ce moment où Moïse était en train de tenir le bâton de Dieu. Et maintenant, eh bien, les Israélites se tiennent à une autre étape, devant le mont Sinaï. Et cela conformément à ce que Dieu avait dit à Moïse auparavant. Je vous lis simplement Exode chapitre 3, verset 12. Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » C'est donc chose faite dans notre texte. Dieu a bien accompli sa parole et Dieu va dévoiler à Moïse son intention. Qu'est-ce qu'il dit précisément? Regardez les versets 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Le peuple a effectivement bien vu tout ce que Dieu a fait aux Égyptiens. Les 10 plaies, comme autant de signes prodigieux. La mer qui se referme sur leurs poursuivants. Et Dieu les a, comme il le dit ici métaphoriquement, portés sur des ailes pour qu'ils arrivent jusqu'à lui. Apparemment, ici, c'est l'image de la femelle de l'aigle qui soutient sur ses ailes ses petits durant leur vol. En tout cas, je tire cela d'une note de la Bible d'études du Semeur. Je n'ai pas trop vérifié plus que cela, mais cette image de ce peuple comme porté sur des ailes. En somme, Dieu a tant fait pour eux, et cela sans que le peuple ne mérite quoi que ce soit. Et voici à présent la réponse que Dieu demande de ce peuple. Après avoir fait tout cela pour eux, qu'est-ce qu'il leur demande ? L'obéissance. En réponse à ce que Dieu a fait pour lui, le peuple doit désormais écouter ses instructions. Doit écouter tout ce que Dieu va dire. Et doit demeurer fidèle à l'alliance que Dieu va établir avec lui. Et j'anticipe déjà sur la suite de l'Exode. Parce qu'effectivement, dans ce moment qui commence au chapitre 19 jusqu'au chapitre 24, Dieu va conclure une alliance avec son peuple. Et c'est dans ce cadre-là, précisément, que Dieu donne sa loi. C'est, si vous voulez, la part du contrat que le peuple doit remplir. La loi de Dieu, c'est la part du contrat que le peuple doit remplir dans cette alliance. Ce sont les obligations qui font partie de cette alliance. Et Dieu ne demande pas à son peuple d'obéir pour obéir, comme s'il s'agissait d'une chose purement mécanique. Non, il leur demande d'obéir en sachant ce que Dieu a fait pour eux. N'est-ce pas ainsi que nous devons voir également les commandements de Dieu ? N'est-ce pas ainsi que nous devons envisager l'obéissance à Dieu ? En sachant ce qu'il a fait pour moi, je réponds à Dieu par l'obéissance. Or, Dieu a tant fait pour nous lorsqu'il a manifesté sa grâce en envoyant son Fils, Jésus-Christ, dans ce monde, afin qu'il subisse à notre place sur la croix le châtiment pour nos péchés. Dieu a tant fait pour nous que notre seule réponse logique, c'est de lui obéir. Reprenons ce que Dieu dit à son peuple. Si vous regardez le verset 5, Dieu pose des conditions. Si vous écoutez, si vous gardez mon alliance, si vous voulez bien de cette alliance, alors vous serez mon peuple, alors vous serez ma propriété, mon trésor précieux. Dieu ne passe pas cette alliance avec tous les peuples de la terre, mais avec un peuple en particulier, les Israélites, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avec qui Dieu avait déjà conclu une alliance. Donc on est dans cette continuité de l'alliance passée entre Dieu et son peuple. Et l'intention de Dieu est claire, toute la terre lui appartient, puisqu'il est le Créateur, mais c'est avec ce peuple qui n'a rien de plus que les autres. Mais c'est avec ce peuple que Dieu veut être en relation. À ce stade de l'histoire du salut, Dieu établit une relation exclusive avec un peuple parmi tous. Et voyez la haute vocation évoquée au verset 6. « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Dans cette alliance, Israël n'est pas soumis à un simple roi humain, mais il est soumis à Dieu, à qui il doit un culte. Et dans sa vocation, eh bien, Israël est donc appelé à servir Dieu, est donc appelé à adorer Dieu. Et beaucoup comprennent aussi que son rôle en tant que royaume de prêtres est de pouvoir représenter Dieu auprès des autres nations, de pouvoir faire connaître Dieu aux autres nations. Voilà pourquoi Dieu choisit un peuple parmi tant d'autres, pour que, à partir de ce peuple, il puisse se révéler à tous les autres. Et n'est-ce pas ce que Dieu avait promis à Abraham autrefois ? Que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Telle était donc l'intention de Dieu quand il a entrepris de libérer Israël des Égyptiens, pour qu'ils puissent être son peuple à lui. Et quand le peuple a entendu cela, et bien spontanément, qu'est-ce qu'il a dit ? Verset 8, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Belle parole, n'est-ce pas ? Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et si seulement l'histoire avait toujours été ainsi. Mais en lisant l'Ancien Testament, nous voyons un peuple finalement défaillant, allant de désobéissance en désobéissance. Maintes fois, ils n'ont pas gardé l'alliance avec le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Bien sûr, tout n'a pas été négatif dans cette histoire. Mais tout de même, ce que nous retenons de l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est l'échec qui prédomine. Et pourtant, lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament, lorsque nous nous retrouvons dans la première lettre de Pierre, voici ce que nous lisons, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, Pierre écrit à des chrétiens, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous retrouvons ces expressions d'Exode 19, prêtres royaux, nation sainte, mais cette fois-ci pour qualifier l'Église. Alors que s'est-il passé ? Jésus est venu. Et là où le peuple d'Israël a échoué dans sa vocation de nation sainte, eh bien Jésus, le véritable Israël, a parfaitement obéi à son Père. Il a rempli toutes les conditions. Vous savez ces conditions, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, Jésus a rempli toutes les conditions. Jésus est resté fidèle jusqu'au bout à son Dieu. Il a vécu selon l'intention de Dieu exprimée précisément dans Exode 19. Et nous devons toujours revenir au fait que nous sommes reconnaissants, non seulement pour sa vie parfaite, son obéissance parfaite, mais nous sommes aussi reconnaissants pour son sacrifice efficace à la croix, où il paye pour les pécheurs que nous sommes. Et parce que nous avons cru en lui, lui, le véritable Israël, parce que nous sommes unis à lui, eh bien, nous pouvons aussi affirmer que désormais, nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous sommes en nous-mêmes des êtres défaillants, infidèles. Mais Jésus a rempli toutes les conditions, de telle sorte que nous puissions continuer de vivre cette vocation de peuple racheté, qui rend en permanence un culte à Dieu et qui fait connaître ce même Dieu aux autres nations. Jésus a rempli toutes les conditions, de telle sorte que malgré nos défaillances, nous puissions continuer à garder cette vocation de peuple racheté, de nation sainte, de prêtres royaux. Grâce à Jésus qui est mort pour le péché des hommes, juifs et non-juifs, eh bien ce sont des gens de toute nation, de toute langue qui rejoignent le peuple de Dieu. Ce n'est plus juste un peuple parmi tant d'autres, mais c'est bien conformément à la promesse que Dieu a faite à Abraham, des gens de toutes les nations qui se retrouvent dans ce peuple qui appartient à Dieu, dans ce peuple qui est le bien précieux de Dieu. Est-ce que vous voyez comme le peuple précieux de Dieu? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous avez du prix et de la valeur aux yeux de Dieu? Pour qu'il puisse nous adresser une telle vocation. Et tout cela, nous le devons à Jésus. Donc la délivrance d'Israël est bien l'œuvre d'un Dieu qui veut être en relation avec son peuple. Son intention est explicite dans notre texte. Mais cela ne s'arrête pas là. Dieu a donné rendez-vous à ce peuple pour qu'il puisse le rencontrer sur cette montagne. Et c'est là le deuxième aspect que je veux évoquer. La manifestation du Dieu saint. La manifestation du Dieu saint. À partir du verset 10 d'Exode 19, eh bien, l'Éternel donne des instructions précises pour que le peuple se prépare à sa rencontre. Israël a pu voir que Dieu était puissant, puisqu'il l'a libéré du pouvoir du Pharaon. Israël a pu voir que Dieu est fidèle. Il a tenu ses promesses en les gardant jusqu'à présent. Il a tenu ses promesses faites autrefois à Abraham, Isaac et Jacob. Et là, le peuple doit apprendre autre chose concernant Dieu. Il doit apprendre, comme nous l'avons chanté d'ailleurs, qu'il est saint. Le peuple doit apprendre que Dieu est saint. Et je passe en revue ces instructions qui permettent au peuple de bien se préparer. Verset 10. « Va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. » Verset 12. « Tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne, et tu diras, « Gardez-vous bien de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Tout homme qui touche la montagne sera puni de mort. » Verset 13. « Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront vers la montagne. » Comprenez, tant que la trompette n'a pas sonné, ils n'avanceront pas. Verset 15, ne vous approchez d'aucune femme. Il y a toute une préparation avant le troisième jour. Et même s'il n'est pas facile pour nous de comprendre la raison exacte, précise de ces instructions, comme le fait de laver ses vêtements, nous comprenons au moins que c'est une manière de dire au peuple qu'il a besoin d'être purifié avant de se présenter devant Dieu. Laver ses vêtements serait comme une manière symbolique de reconnaître qu'on n'est pas pur et qu'on a besoin de se débarrasser de la souillure. Et en l'occurrence, parce que l'homme est pécheur. Concernant l'abstinence sexuelle, sans doute qu'il faut aussi le comprendre un peu dans ce sens-là. Alors, non pas que la relation sexuelle soit en soi un péché, parce qu'après tout, c'est Dieu qui l'a voulu pour l'homme et la femme mariés. Mais plutôt parce qu'après l'acte, les deux devenaient rituellement impurs, d'après les lois que nous retrouvons dans le Lévitique. Donc c'est une question de pureté ou d'impureté rituelle. Ça n'a rien à voir avec l'idée d'un péché ou pas. Pour pouvoir se présenter devant Dieu, il fallait éviter d'être rituellement impur. Dieu est saint et il mérite à ce titre le plus grand respect. Et personne ne peut l'approcher sans d'abord suivre ses instructions, sans d'abord se purifier. Et en posant des limites autour de la montagne, eh bien Dieu met une distance volontaire, nécessaire, parce qu'un pécheur ne peut s'approcher du Dieu saint sans s'exposer à la mort. Et si quelqu'un devait enfreindre ce règlement, les autres membres du peuple devaient l'exécuter, y compris si c'était un animal. Est-ce que vous vous rendez compte, juste un moment, à quel point le fait que Dieu soit saint et qu'il empêche quiconque de s'approcher de lui de n'importe quelle façon doit nous rappeler quel Dieu nous avons ? Doit nous rappeler qu'il y a des conditions pour pouvoir nous approcher de Dieu. Toutes les instructions étaient données pour que le peuple sache à qui il a affaire. Celui qui va leur apparaître sur la montagne est le Dieu devant lequel aucun pécheur ne peut tenir, à moins d'être passé par la purification, à moins de suivre ses instructions. Et puis nous avons cette scène qu'on pourrait qualifier d'épique ou de dramatique. À partir du verset 16, « Le matin du troisième jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. » Verset 17, « Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. » Verset 18, « Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. » Et cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Cette scène décrit ce que nous appelons en théologie une théophanie, une manifestation visible de la présence de Dieu. Et c'est même en fait une manifestation sonore, avec les coups de tonnerre et le son de la trompette. Et soit dit en passant, d'où vient ce son de trompette ? Est-il d'origine céleste ? C'est en tout cas le signal donné pour indiquer au peuple qu'il peut avancer. Mais juste au pied de la montagne, pas plus loin. Et à ce spectacle, comme vous pouvez l'imaginer, hein, et on ne peut que l'imaginer en réalité, à ce spectacle, le peuple tremble de peur. En plus, c'est le matin. troisième jour au matin. Et il y a de quoi avoir peur. La montagne qui commence à s'embraser et qui tremble à son tour. Dieu est là. Quand tout à l'heure je vous ai demandé quelle était votre expérience la plus forte au sujet de Dieu, j'imagine que vous n'avez rien vécu de tel. Dans cette théophanie, Dieu se montre terrifiant, redoutable. Et nous lisons un chapitre plus loin qu'effectivement, Exode 20, verset 18, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Mais il y a de quoi ? Et cette expérience a lieu, d'après ce que leur dit Moïse, toujours Exode 20, verset 20, pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. Voilà pourquoi Dieu se manifeste de cette manière-là, pour qu'ils aient effectivement peur, et surtout peur de pécher contre lui. Est-ce que cela ressemble au Dieu que vous percevez ? Au Dieu que vous connaissez. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez Dieu ? Redoutable, terrifiant. Oui, l'expérience de la manifestation du Dieu saint doit conduire le pécheur à se détourner du péché. Si je fais référence à un autre moment dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, qui a cette vision de Dieu, une vision glorieuse, une vision incroyable. Il entend « Saint, Saint, Saint est le Seigneur » comme nous l'avons chanté. Et qu'est-ce qu'il se dit, cet Ésaïe, ce pauvre Ésaïe qui voit cela ? Il se dit « Malheur à moi, qui ai les lèvres impures et qui suis au milieu d'un peuple impur. Malheur à moi. » Voilà ce que provoque la vision d'un Dieu saint. En fait, Dieu est saint, est tellement digne du plus grand respect que nous, on se sent indigne devant lui. Oui, c'est ce que ça doit provoquer comme sentiment. Et alors que le phénomène s'intensifie, vous voyez dans le récit, la trompette sonne de plus en plus fort. Dieu appelle Moïse à s'approcher pour lui dire quoi ? Redescends. Vous avez remarqué ça ? Il monte pour lui dire « descends ». Verset 21, « Descends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder, car un grand nombre parmi eux mourrait. » Oui, Dieu a déjà donné ses instructions, mais il insiste, car il ne voudrait pas qu'un malheur arrive à son peuple, son bien précieux. Dieu vient à la rencontre de son peuple, mais en même temps, il le tient à distance. Oui, il est juste de parler du Dieu de la Bible comme d'un Dieu aimant. Et il est tout aussi juste, quand nous lisons ce texte ce matin, de parler du Dieu de la Bible comme d'un Dieu redoutable, devant qui nous ne pouvons pas être légers. Imaginez un instant si le peuple avait pris à la légère les instructions de Dieu. Ça aurait été l'hécatombe. Cela me fait penser, peut-être à cette histoire que vous connaissez aussi, dans les chroniques de Narnia. Vous connaissez Narnia ? Rassurez-moi. Et à un moment donné, les personnages se posent la question concernant un certain Aslan. Alors pour ceux qui connaissent, Aslan, c'est un personnage quand même important dans les chroniques. Aslan, c'est le roi des animaux, le roi de tout. Et à un moment donné, les personnages demandent à un castor, il me semble, c'est un castor, qui il demande des informations. Et notamment, il leur pose la question, mais ce roi redoutable, il est inoffensif, non ? Et le castor qui leur répond, inoffensif ? Mais qui a dit qu'il était inoffensif ? Il n'est pas inoffensif, mais il est bon. C'est le roi. Et pour faire le parallèle et qu'on comprenne pourquoi je donne cet exemple, Aslan, finalement qui est un lion dans les chroniques, Eh bien, ce lion est probablement, on peut l'associer à une figure christique et donc au Christ lui-même. Tout ça pour dire que, oui, il y a en Dieu quelque chose de cela. Il n'est pas inoffensif, mais il est bon. Il est redoutable et il est amour. Il est saint. Et dans sa grâce, eh bien dans sa grâce, il nous permet de nous approcher de lui. Et c'est ce que je veux évoquer. C'est que lorsque nous venons ensemble devant Dieu le dimanche matin, ce n'est pas la peur qui nous anime. Enfin, je crois que vous n'êtes pas venu avec la peur au ventre. Si, quelqu'un parmi vous est venu avec la peur au ventre. Nous ne venons pas tout tremblants devant Dieu. Au mieux, c'est plutôt la joie qui nous anime. Et au lieu de la distance, c'est plutôt la proximité qui caractérise notre relation avec Dieu. Est-ce que Dieu serait devenu moins exigeant avec le temps depuis l'époque de l'Exode ? Non, Dieu n'est pas devenu moins exigeant. Dieu est toujours le même. Mais entre l'époque de Moïse et nous, il y a eu la venue de Jésus. La sentence de mort qui menaçait ceux qui s'approchaient de trop près de la montagne est tombée sur le seul juste. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait que nous pouvons nous approcher de Dieu avec joie et non avec peur. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit également lorsqu'il fait référence à ce texte. Hébreux chapitre 12, versets 18 à 24. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas, en effet, cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur ». Au contraire, je lis la suite du passage, au contraire, vous vous êtes approché du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges, en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approché de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Alors, je ne veux pas tout commenter dans ce passage-là, mais effectivement, depuis la venue de Jésus, l'expérience des croyants concernant Dieu ressemble plus à une fête qui se passe dans la cité céleste. Grâce au sang de Jésus qui nous purifie complètement, ce qui n'était pas possible à l'époque de Moïse où ils avaient simplement lavé leurs vêtements. Donc, grâce au sang de Jésus qui nous purifie complètement, nous pouvons nous approcher de Dieu sans trembler, sans avoir peur de mourir. Mais rendez-vous compte qu'il a fallu que Jésus verse son sang pour que cela soit possible. Grâce à Jésus et grâce à son œuvre en notre faveur, nous n'avons jamais été aussi proches de Dieu et de la réalité de sa présence. Grâce à Jésus, mort pour nos péchés et ressuscité pour nous justifier, nous allons pouvoir un jour être dans la Jérusalem céleste, en compagnie du Dieu vivant. À ce moment-là, nous serons saints et sans reproche, dignes uniquement par Christ, dignes uniquement par Christ de nous tenir devant le Dieu saint. Nous ne sommes pas encore parvenus à ce bonheur éternel, mais déjà aujourd'hui, et toujours avec un profond respect, nous pouvons profiter de cet accès libre à Dieu quand nous nous rassemblons le dimanche, comme nous le faisons ce matin, mais aussi tout au long de la semaine, quand nous décidons de venir à lui, de prendre du temps pour lui, de nous arrêter devant lui et de l'adorer. Jésus, par sa victoire sur le péché et la mort, nous en a ouvert le chemin. Nous avons un immense privilège par rapport à ce que le peuple d'Israël a vécu à ce moment-là. Eux devaient se tenir à distance. Nous pouvons nous approcher de Dieu sans crainte. Nous avons vu jusque-là l'intention de Dieu qui veut établir une relation avec le peuple qu'il a choisi. Mais à cause de sa sainteté, eh bien, le peuple ne peut pas s'approcher de lui sans suivre ses instructions, sans suivre ses conditions. Et le troisième aspect qui est en lien avec les deux autres est que le rôle de Moïse dans ce chapitre 19 souligne la nécessité d'un médiateur. Il faut un médiateur entre Dieu et son peuple. Et c'est à cela que je veux nous amener maintenant. Ce texte nous le montre très bien. Est-ce que vous avez suivi les mouvements de Moïse dans ce texte? On va faire l'exercice ensemble. En tout cas, je vais le faire pour vous. Verset 3, Moïse monta vers Dieu. Verset 7, Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ses paroles. Autrement dit, il est redescendu. Ensuite, versets 8 et 9, Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc, il est remonté. Verset 14, Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Verset 20, l'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta. Et verset 25, Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Alors, ce n'est pas pour vous montrer qu'il faisait de la rando, hein. Mais ici, c'est bien pour mettre en évidence que ce Moïse-là joue un rôle particulier. Parce que c'est lui qui fait les allers-retours. Personne ne l'accompagne dans ce trajet. C'est lui qui a ce rôle spécifique devant Dieu. Et de tout le peuple, il est le seul à pouvoir faire ce chemin, à pouvoir monter dans la montagne à la rencontre de Dieu. Et d'ailleurs, au verset 9 de notre texte, nous avons aussi un accent là-dessus. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Le rôle particulier de Moïse. Et d'ailleurs, si nous regardons un peu plus loin, après l'expérience de cette théophanie, lorsque Dieu aura parlé directement à son peuple, au chapitre 20, eh bien nous lisons cette parole du peuple qui dit à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Parle-nous, toi, Moïse, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. Parce qu'ils venaient de faire l'expérience de Dieu qui leur parle directement. Dans cette situation, le peuple reconnaît qu'il a besoin d'un intermédiaire entre lui et Dieu. Quelqu'un qui se tienne entre Dieu et lui. Et plus tard, quand le peuple aura désobéi à l'Éternel, c'est encore Moïse qui jouera le rôle de médiateur. C'est encore lui qui intercédera pour le peuple, afin que Dieu ne le détruise pas comme il serait en droit de le faire. Heureusement que Dieu avait prévu ce médiateur. Mais Moïse n'était pas parfait. Et à son tour, il échouera. Et à son tour, il ne pourra pas entrer en terre promise avec le peuple qu'il a si longtemps accompagné dans le désert. Et cela faisait attendre un autre médiateur. Et déjà en Deutéronome chapitre 18, versets 16 à 18, nous lisons ceci. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb le jour de l'Assemblée. Tu disais, je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, ni voir ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel m'a dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Déjà dans ce texte de Deutéronome, il y a la promesse qu'il y a un prophète, un médiateur, un porte-parole comme Moïse. Et bien sûr, ce parfait médiateur tant attendu, nous le trouvons dans la personne de Jésus-Christ. Nous l'avons lu à l'instant dans l'Épître aux Hébreux, Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle. Avec Jésus, c'est effectivement une nouvelle alliance dans laquelle nous sommes engagés, une alliance scellée par son sang. Jésus qui est l'excellent médiateur est celui dont nous avions besoin pour rétablir la relation entre Dieu et les hommes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ailleurs dans sa lettre qu'en qualité de prêtre qui vit éternellement, Jésus peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux chapitre 7, verset 25. Il peut toujours sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est cette assurance-là que nous avons lorsque nous nous approchons de Dieu. Il y a toujours ce médiateur qui intercède en notre faveur. Et je ne peux trop insister sur le fait que Jésus nous est tellement indispensable jour après jour. Sans sa médiation, nous ne pourrions prétendre à une quelconque relation avec Dieu. Sans lui, la communion avec Dieu ne pourrait avoir lieu. Sans lui, nous serions encore sous le poids de nos fautes. Mais c'est grâce à Jésus. C'est uni à Jésus que nous bénéficions de la proximité avec Dieu. Il n'est plus question de distance. Il n'est plus question de distance au point que Dieu a daigné faire sa demeure en nous par son esprit. Est-ce que vous connaissez une proximité plus proche que celle-là? Il n'est plus question de distance avec Dieu. Alors profitons-en. Venons à lui. Approchons-nous de lui. Et cela a été rendu possible parce que nous avons précisément un médiateur. Exode 19 présente une théophanie spectaculaire qui nous rappelle que Dieu, quel Dieu nous avons. Un Dieu redoutable, saint, et qui ne se laisse approcher qu'à ses conditions à lui. Et malgré le péché de l'homme, malgré sa désobéissance, malgré sa rébellion, Dieu, dans un geste de pure grâce, veut entrer en relation avec ceux qu'il a choisis. C'est l'intention qu'il continue de concrétiser aujourd'hui, lorsque des hommes et des femmes entrent dans son alliance et font partie de son peuple. Comme nous le sommes, si nous avons mis notre confiance en Jésus. Exode 19 nous rappelle aussi à quel point nous avions besoin d'un médiateur. Et heureusement qu'il est venu, ce médiateur. Heureusement qu'il a donné sa vie pour nous, pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre une relation personnelle avec le Dieu saint et tout-puissant. Mes amis, l'expérience la plus forte avec Dieu est encore à venir, au-delà de tout ce que nous pouvons expérimenter ici-bas. Et c'est précisément cette espérance, avec cette espérance, que nous pouvons nous réjouir du jour où nous ne serons pas au sommet du mont Sinaï, mais nous serons dans la glorieuse cité de Dieu, là où notre joie sera sans fin. Dieu habitera avec nous, et nous serons son peuple pour toujours, et cela grâce à notre excellent médiateur, Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à la prière. Il n'est pas inoffensif, mais il est bon. Et c'est le roi. Oui, effectivement, cela se rapproche de l'idée que tu nous donnes dans ta parole, lorsque tu te révèles comme étant ce Dieu saint et redoutable qu'on ne peut approcher de n'importe quelle façon. Nous ne pouvons nous approcher de toi qu'à tes conditions. Et ces conditions, Seigneur, eh bien, merci parce que Jésus les a complètement remplies. Et que c'est par Jésus que nous pouvons nous approcher de toi, que c'est grâce à lui que nous sommes en relation avec toi, réconciliés avec toi. Oui, donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous en souvenir jour après jour, de nous rendre compte du privilège que nous avons aujourd'hui en tant qu'Église, ton Église, par rapport à ce qu'a pu expérimenter le peuple d'Israël sur le mont Sinaï. Oui, Seigneur, nous voulons avant tout te rendre grâce pour cet immense privilège que tu nous as accordé, de ce que nos fautes ont été pardonnées, de ce que nous pouvons nous approcher de toi sans crainte de mourir, que nous pouvons nous approcher de toi sans avoir peur de perdre ta faveur. Parce que Seigneur, nous devons tout cela à notre médiateur, notre excellent médiateur, Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir pourvu à cela. Merci parce qu'il ne pouvait en être autrement. Il fallait un médiateur parfait. Et tu as pourvu à cela. Alors donne-nous, Seigneur, de pouvoir encore te voir tel que tu es, tel que tu te révèles dans ta parole. À la fois redoutable, saint, et en même temps plein de grâce, et qui nous permet désormais, à nous tes enfants, de pouvoir nous approcher de toi, par Jésus-Christ. Amen.